Le fil info.
Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. Le gouvernement de la Saskatchewan tente de se retirer comme défendeur dans une nouvelle poursuite judiciaire en lien avec l'accident tragique des Broncos de Humboldt. Les avocats de plusieurs familles de victimes étaient présents au tribunal mardi pour s'y opposer. Le 6 avril 2018, le camion que conduisait Jaskirat Singh Sidhu a percuté l'autocar qui transportait les joueurs de l'équipe des Broncos de Humboldt. 16 personnes ont perdu la vie dans cet accident et 13 autres ont été blessées. 5 familles qui ont perdu des membres dans cet accident allèguent que la province était au courant des problèmes de visibilité à l'intersection des routes 35 et 335 près de Teesdale. L'avocat Kevin Miller cite un autre accident qui avait tué 6 membres d'une famille au même endroit en 1997. 8 mois après l'accident, un examen quant à la sécurité de l'intersection a dévoilé que des arbres bloquaient la vue des automobilistes. Ces arbres ont été enlevés et des bandes rugueuses ont été installées à leur place. Les gouvernements provincial et le camionneur responsable de l'accident tentent maintenant de se retirer de la poursuite. Ils souhaitent que le procès n'ait pas lieu. Comme nous le savons, les faits sont si prédominants que nous pouvons comprendre qu'ils ne veulent pas de procès, mais il en faut un, explique Kevin Miller. Il a indiqué au juge de la cour du Banc du Roi que le gouvernement provincial n'a toujours pas soumis une déclaration de défense. Dans un avis au tribunal, le gouvernement provincial avait demandé d'être exclu de la poursuite parce que la Saskatchewan a une assurance sans égard à la responsabilité. Cela signifie qu'une personne soit des indemnités, peu importe qui est responsable de l'accident, mais la tentative d'action en justice pour la douleur et la souffrance est limitée. Les avocats du gouvernement de la Saskatchewan n'ont pas encore pris la parole à l'audience qui devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Un syndicat de l'Université du Manitoba veut plus de clarté sur les accords avec les donateurs. Dans la foulée de la controverse entourant le discours d'un diplômé en médecine, le syndicat des professeurs de l'Université du Manitoba appelle l'administration à faire preuve de transparence sur les accords conclus avec les donateurs. Ces jours-ci, des tensions sont apparues entre l'université et un philanthrope qui a qualifié de haineux le discours tenu par le major de promotion du collège de médecine Max Raddy de l'Université du Manitoba, le docteur Jim Newman. Dans son discours prononcé le 16 mai lors de la remise des diplômes, il a demandé aux autres diplômés d'exiger un cessez-le-feu à Gaza et a critiqué les associations médicales pour leur silence assourdissant en lien avec la crise humanitaire qui sévit dans cette région. Ernest Raddy, un homme d'affaires et diplômé de l'Université du Manitoba dont le don de 30 millions de dollars a permis au Collège de médecine de porter le nom de son père, a envoyé une lettre à l'université dans laquelle il a affirmé que le discours du Dr. Jim Newman contient des mensonges haineux et est source de dénigrement pour le peuple juif dans son ensemble. M. Raddy a alors demandé et obtenu le retrait du discours de la page YouTube de l'université. L'administration a expliqué qu'il n'était pas la seule personne à en avoir fait la demande. Cette situation avait notamment suscité un débat sur la liberté d'expression et sur l'influence des donateurs sur les universités. La communauté universitaire n'a jamais vu les documents indiquant ce que les donateurs reçoivent, soutient la présidente du syndicat des professeurs de l'Université du Manitoba, Orvie Dingwall. Selon Mme Dingwall, l'argent ne peut faire obstacle à la liberté d'expression et à la liberté académique sur le campus. Et dans une déclaration envoyée à la chaîne CBC, l'université a répondu que les donateurs n'ont pas d'influence sur les activités d'une faculté ou de l'université en général, quelle que soit l'importance de leurs dons. La pluie reçue pendant les mois d'avril et de mai a atténué la sécheresse dans le sud de l'Alberta, mais elle reste toujours présente dans plusieurs régions. Nathalie Hassel, météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada, confirme l'impression que certaines parties de la province ont certainement reçu plus de précipitations que la normale. Cela a permis au gouvernement albertain de retirer 2 avis de pénurie d'eau. Or, la province n'est pas encore sortie de sa période de sécheresse, 19 avis étant toujours en vigueur, et même dans le sud, le niveau de certains réservoirs reste bas. Calgary a reçu près de 51 mm de précipitations au mois de mai. Ces chutes de neige et de pluie ont renfloué suffisamment les réservoirs qui fournissent la métropole en eau pour permettre à la ville de déclarer que l'alimentation en eau est de retour à la normale. Il y a quelques semaines, cette dernière demandait aux habitants de prendre des mesures pour réduire leur consommation d'eau car la crainte que la sécheresse s'aggrave planait au-dessus de la ville. Nicole Newton, directrice de l'environnement et de l'adaptation à la ville de Calgary, sollicite toujours la participation du public et la prise de certaines habitudes. Elle suggère notamment de ne pas arroser son jardin si de la pluie est annoncée au cours de la journée, ou encore de privilégier l'arrosage tôt le matin ou dans la soirée. Un peu plus au sud, la ville de Lethbridge a reçu près de 90 mm de précipitations durant le dernier mois. Cela a fait augmenter le niveau d'eau du réservoir Oldman dont dépend la ville. C'est pourquoi la ville continue d'envoyer à la population des rappels concernant les mesures à prendre pour réduire la consommation d'eau. Selon Environnement et Changement Climatique Canada, le mois de juin sera plus sec et plus chaud que les normales saisonnières. Les producteurs de fruits de la Colombie-Britannique prévoient de faibles récoltes. L'Association des producteurs de fruits de la Colombie-Britannique s'attend à de faibles récoltes cette année, en cause, selon elle, les événements météorologiques extrêmes qui touchent la province depuis plusieurs années. Scudip Brar, vice-président de l'association, dit qu'il n'y aura que très peu de cerises, de pêches et de pommes. Du sud au nord de l'Okanagan, il n'y a pas de pêche, comme le mentionne la consultante. C'est la même chose pour les nectarines et les abricots, et c'est dû à l'épisode de gel extrême de janvier. Si habituellement des producteurs font appel à des travailleurs saisonniers pour les cueillettes, cette année, certains renonceront à les faire venir ou ils mettront fin à des contrats à compter du 10 juin. À l'aube d'une dure saison, l'Association des producteurs de fruits a organisé un rassemblement public au parc Giraud à Osoyoos mardi. Ils réclament l'appui des consommateurs et des mesures de la part des décideurs politiques pour soutenir la filière agricole. L'événement coïncidait avec la tenue de caucus du nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique. Celui-ci est dans la région cette semaine. Scudip Brar estime que la province peut apporter son aide en améliorant l'assurance liée aux pertes de production et en injectant du financement dans la filière. Selon lui, depuis le dôme de chaleur de 2021, les arbres et les plantes ne sont plus les mêmes. La santé des fruits et des arbres s'est dégradée. David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, reconnaît que les récents événements météorologiques ont causé des dommages. Il est clair qu'il y a des grands défis à relever à Osoyoos et dans la région de Kelowna, en particulier dans le secteur de l'agriculture. La province a annoncé en mars dernier une aide financière de 70 millions de dollars pour des agriculteurs durement touchés par les événements météorologiques extrêmes. Le nouveau budget des territoires du Nord-Ouest reçoit un accueil mitigé de la part des députés. Les réactions au nouveau budget de fonctionnement proposé par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ont été mitigées vendredi à l'Assemblée législative. Certains députés critiquent notamment le manque de dépenses en matière de logement. La ministre des Finances, Caroline Wawasnek, a déposé le budget de fonctionnement 2024-2025 vendredi. Elle a indiqué que le plan de 2,2 milliards de dollars comprend des choix difficiles pour s'assurer que le territoire est financé. Financement prêt à faire face aux aléas qui pourraient survenir. Danny McNeely, député du SATU, a dit qu'il approuvait l'accent mis sur la viabilité financière dans ce budget qui prévoit des réductions de dépenses de 48 millions de dollars comparativement à l'année dernière. Mais d'autres députés et des organisations de défense des droits se sont montrés plus critiques. C'est le cas de la députée de Yellowknife Nord, Shona Morgan, qui considère que le budget ne cible pas assez les priorités de la 20e Assemblée, comme l'amélioration du logement et de l'économie. Elle s'est dite déçue que rien de vraiment nouveau n'est prévu dans les investissements en matière de logement. Elle souhaite également que l'on investisse davantage dans les soins de santé et l'éducation. Richard Edgerican, député de Toonidee-Willidee, a aussi admis qu'il aurait voulu voir plus d'argent alloué aux initiatives en matière de logement. De nombreux représentants du Syndicat des travailleurs du Nord ont également assisté au discours sur le budget vendredi et dans une entrevue accordée avec la chaîne CBC, le vice-président du syndicat Melvin Larocque s'est montré extrêmement critique à l'égard des suppressions d'emplois prévues dans ce budget. Celui-ci prévoit la suppression de 91 postes dans la fonction publique, dont 58 sont actuellement pourvus. Les 33 postes restants sont des postes vacants que le territoire va supprimer. Parmi les suppressions d'emplois, 69 postes sont syndiqués. Un premier appareil d'imagerie par résonance magnétique au Nunavut. Les patients du Nunavut n'auront plus besoin de se rendre dans le sud du pays pour recevoir une imagerie par résonance magnétique cérébrale. Récemment, l'hôpital général de Kikiktani à Iqaluit a reçu un appareil portatif capable de prodiguer de tels examens. Le 15 mai, l'appareil a effectué son premier examen cérébral. Ce type de technologie permet de capturer des images transversales du corps humain grâce à un champ magnétique puissant et à des ondes radio de très haute fréquence. Il peut notamment servir à détecter des tumeurs, des accidents vasculaires cérébraux et certains troubles neurologiques ou encore à déterminer la propagation d'un cancer dans le corps. L'appareil DRM portatif est contrôlé depuis une tablette iPad et peut être déplacé dans l'hôpital. Le personnel médical et les proches du patient peuvent par ailleurs rester au chevet de ce dernier pendant la durée de l'examen. Au lieu de transporter un patient vulnérable qui se trouve sous respirateur et dans une unité de soins intensifs, l'équipement peut être apporté près de lui, explique le ministre. Les les avantages sont les mêmes pour des très jeunes nourrissons. Leurs parents ou tuteurs peuvent être à leur côté et leur tenir la main pendant l'examen. L'hôpital général de Kikiktani dispose aussi de tomodensitomètre, communément appelé CT scan, un appareil qui permet d'obtenir une image du corps humain en trois dimensions grâce aux rayons X. Le service des urgences de l'hôpital réalise actuellement environ 80 tomodensitogrammes cérébraux chaque mois selon le ministère de la Santé. Comme le tomodensitomètre doit être remplacé au courant des deux prochains mois, l'hôpital offrira pendant ce temps des examens cérébraux sur son nouvel appareil de IRM. Dans un échange de courriel, le ministère de la Santé indique que l'appareil a engendré des coûts d'environ 1 million de dollars en incluant les coûts de livraison et le contrat de service.
Le fil sportif.
Plus de 5000 coureurs au 46e marathon de la Saskatchewan. Le 46e marathon de la Saskatchewan s'est déroulé dimanche matin à Saskatoon alors que plus de 5000 coureurs tentaient de battre leur record personnel de temps. Les coureurs pouvaient choisir parmi 5 parcours différents proposés par l'un des plus anciens marathons du Canada, peut-on lire sur le site web de l'organisation. Du parcours familial de 2,2 km à celui de 42,2 km, les athlètes pouvaient trouver chaussures à leurs pieds. Les fonds récoltés durant le marathon ont été versés à la Miwazin Valley Authority, un organisme qui se consacre à la protection de l'environnement. Défaite crève-cœur pour les voltigeurs éliminés du tournoi de la Coupe Memorial. Ils ont montré beaucoup de caractère, mais ce n'a pas été suffisant. Les voltigeurs ont vu leur tournoi de la Coupe Memorial prendre fin de la pire des manières. Les Warriors de Moose Jaw ont inscrit le but gagnant en désavantage numérique en fin de rencontre pour renvoyer les Drummondvillois en sol québécois bredouille. Le match s'est terminé 5-3 avec un dernier but dans un filet désert. En remportant ce match contre les voltigeurs, les Warriors de Moose Jaw gagnent leur billet pour la demi-finale du tournoi de la Coupe Memorial. Ils affronteront l'équipe perdante de l'affrontement entre les Knights de London et le Spirit de Saginaw, prévu pour mercredi soir à Doe Event Center. Scott Arniel a été nommé le nouvel entraîneur-chef des Jets de Winnipeg vendredi dernier. Il remplace Rick Bowness qui a annoncé sa retraite au début du mois de mai après 38 saisons passées dans la Ligue nationale de hockey. Cette annonce survenait après l'élimination de l'équipe au premier tour des séries contre l'Avalanche du Colorado. Scott Arniel était l'entraîneur adjoint sous M. Bowness depuis juillet 2022 et il a été appelé à le remplacer à trois reprises pendant les saisons 2022-2023 et 2023-2024. Rick Bowness avait dû s'absenter pour des raisons de santé. En 25 matchs comme entraîneur-chef par intérim, le natif de Kingston en Ontario a obtenu une fiche de 15 victoires, 7 défaites et 3 défaites en prolongation. Coupe Félix de hockey-ball. Des équipes jouent contre le cancer pédiatrique au Manitoba. Le tournoi de hockey-ball nommé Coupe Félix, qui vise à récolter des fonds pour soutenir la recherche sur les différents types de cancers pédiatriques, se déroule ce week-end à l'aréna de Notre-Dame-de-Lourdes, dans le sud du Manitoba. Le tournoi se tient pour la deuxième fois dans la province à la mémoire de Félix Divine, emporté par un cancer pédiatrique alors qu'il n'avait que 23 mois. Au total, 12 équipes s'affrontent dans le cadre de ce tournoi. L'année dernière, 17 000 $ ont pu être récoltés pour Action Cancer Manitoba à l'occasion de ce tournoi. Plus de 550 jeunes participent au 30e Jeux francophones de l'Alberta à Lac-Labiche. La 30e édition des Jeux francophones de l'Alberta s'est déroulée à l'école J.A. Williams High School à Lac-Labiche en fin de semaine dernière. Depuis 1992, l'événement continue de rassembler des jeunes francophones de tous les coins de l'Alberta. Environ 570 jeunes étaient au rendez-vous dans le hameau du nord-est de l'Alberta afin de faire leurs preuves dans des compétitions entre différentes régions. La Fédération du sport francophone de l'Alberta organise ces Jeux chaque année. Les compétitions dans lesquelles s'affrontent les jeunes de toutes les régions sont sportives mais aussi artistiques. Autre victoire sur la route pour les Stars qui prennent les devants face aux Oilers. Jason Robertson a inscrit 3 buts et les Stars ont vaincu les Oilers 5-3 lundi au Rogers Place d'Edmonton. Dallas mène maintenant la série 2-1. Il s'agit d'un 6e gain pour les Stars à l'étranger en 7 matchs depuis le début des séries. Jake Oettinger a repoussé 27 des 30 tirs dirigés vers lui. Stuart Skinner a fait face à 21 tirs, dont 16 en deuxième période. Après seulement 2 minutes 2 secondes de jeu, Zach Hyman a enregistré son 13e but des séries. McDavid a ensuite marqué son 4e des séries. Du même coup, il amassait le 100e point de sa carrière en match éliminatoire à son 64e match. Le match numéro 4 sera de nouveau présenté au domicile des Oilers mercredi soir. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.